France Culture, il est 16h. Tout de suite, Science Publique, Michel Alberganti.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette émission de Science Publique, donc qui s'inscrit dans la journée spéciale de France Culture consacrée à la guerre en Syrie. Vous pouvez nous adresser vos réactions, vos commentaires au sujet de notre débat d'aujourd'hui. Syrie, peut-on gagner une guerre derrière un écran ? Au moment où l'on commémore les 100 ans de la bataille de Verdun, une évolution stratégique flagrante saute aux yeux lorsqu'on observe ce qui se passe en Syrie depuis 5 ans, tout comme en Irak avec la lutte contre Daesh. L'une des deux armées a disparu du champ de bataille. Les forces russes, américaines et européennes multiplient les frappes aériennes et excluent pour l'instant de faire appel à des troupes au sol. Le résultat fait débat. Le 15 novembre 2015, l'ancien Premier ministre François Fillon déclarait sur Europe 1, je cite, « Quand on entre en guerre, on ne se contente pas de 3 bombardements par semaine, on a une stratégie pour gagner la guerre, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Aucun bombardement n'a jamais permis de gagner une guerre. » Fin de citation. Le recours au bombardement à partir de navires, d'avions et de drones n'a toujours pas réussi à mettre un terme à la guerre civile en Syrie ou à vaincre Daesh. Et le bilan humain ne cesse de s'alourdir en touchant de nombreux civils. Selon les chiffres publiés le 23 février 2016 par l'Observatoire civil des droits de l'homme, l'Observatoire syrien des civils des droits de l'homme, le conflit aurait fait en 5 ans plus de 270 000 morts, dont plus de 79 000 civils, parmi lesquels 13 500 enfants et près de 9 000 femmes. Ces chiffres ne concernent que la Syrie et non l'Irak. Ils conduisent à s'interroger sur l'efficacité de la guerre à distance par écran interposé que mènent aujourd'hui les forces alliées. En retour, Daesh fait largement appel aux écrans d'Internet pour sa propagande et son recrutement de nouveaux djihadistes, dont certains sont motivés par les bombardements alliés qui touchent des civils. Quel rôle jouent aujourd'hui ces écrans qui rapprochent la guerre d'un jeu vidéo sans lien direct avec la réalité du champ de bataille ? Pour en débattre, nous recevons aujourd'hui dans Science Publique en direct depuis le studio 1 de la Maison de la Radio, Jean-Claude Allard, général, directeur de recherche à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, l'IRIS, Jean-François Daguzan, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique, la FRS, et auteur de l'ouvrage intitulé « La fin de l'État-nation de Barcelone à Bagdad » paru au CNRS édition en 2015, et François Bernard Huyghe, je vais y arriver, directeur de recherche à l'IRIS, spécialisé dans la communication, la stratégie, la cyberstratégie et l'intelligence économique, et auteur d'un ouvrage intitulé « Désinformation, les armes du faux » paru chez Armand Collin en 2016. Je vous rappelle que vous pouvez nous adresser vos réactions et commentaires en bas de la page internet de Science Publique sur franceculture.fr. Jean-François Daguzan, bonjour.
Bonjour.
Alors peut-être pour commencer ce débat par un premier tour de table, le plus simple est de vous faire réagir à cette déclaration de François Fillon, que je rappelle, du moins sa conclusion, aucun bombardement n'a jamais permis de gagner une guerre. Qu'en pensez-vous ?
Je pense globalement que l'ancien Premier ministre a raison, puisque la plupart du temps, comment dire, si l'on considère que la guerre implique à la fois la destruction de l'ennemi et l'occupation du terrain, il est évident que cette phrase a totalement du sens. Après, tout dépend aussi quels sont les objectifs de guerre. Ça, c'est un élément très important dont on ne parle pas forcément. Et on a quand même un cas sur lequel on peut débattre, mais qui est quand même important à rappeler, qui est le cas du Kosovo, où essentiellement tout s'est déroulé par le biais d'opérations aériennes, avec comme essentielle volonté de faire plier la volonté de M. Milosevic en détruisant l'appareil industriel, les infrastructures de la Serbie. Donc c'est un cas particulier, mais comme il existe, il faut le citer. Globalement, néanmoins, dans la plupart des cas, les buts de guerre impliquant non seulement l'affaiblissement de la volonté de l'adversaire, le renoncement de l'adversaire à ses objectifs, mais aussi, le cas échéant, sa destruction, il faut, dans ce cas-là, aller plus loin et aller vers des opérations terrestres visant à l'éliminer militairement, éventuellement politiquement, et supprimer son espace vital qui est le territoire dans lequel il s'exerce.
Voilà, on va y revenir. Jean-Claude Allard, bonjour.
Bonjour.
Alors, même question à vous, peut-on gagner une guerre en ayant exclusivement recours au bombardement ?
Écoutez, permettez-moi, pour présenter ma réponse, de tenter de définir ce qu'est une guerre, car sinon on ne peut pas répondre à la question. Sun Tzu, 4e siècle avant Jésus-Christ, et Clausewitz, au 19e, me fournissent des appuis pour dire la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Donc si on veut gagner une guerre, il faut au départ savoir quels sont les objectifs politiques que l'on veut atteindre. Permettez-moi de rebondir sur l'exemple du Kosovo. Parce que j'ai occupé des postes dans ce pays. Le Kosovo, la campagne aérienne a effectivement permis de plier la volonté de Milosevic, mais il a fallu ensuite que l'on déploie jusqu'à 80 000 hommes dans ce petit territoire grand comme un département français, de 99 à 2014. Je rappelle que là, il y avait des objectifs politiques, c'était de faire du Kosovo une province apaisée de la Serbie dans lequel il y aurait de la multiethnicité. Aujourd'hui, le Kosovo est uniquement occupé par des Kosovars albanais, comme l'on dit, et les Serbes vivent derrière des barbelés pour se protéger. En 2008, ce pays s'est déclaré indépendant. La guerre du Kosovo a été perdue au regard des objectifs initiaux politiques. Voilà. Et une deuxième guerre également, qui est le contre-exemple, c'est la Libye. On rentre en guerre sans réellement d'objectif politique, on bombarde à tour de bras, et aujourd'hui on a perdu la guerre puisque la Libye est dans un état totalement désastreux. Donc dans les deux cas, je veux dire que oui, campagne aérienne est le contenu d'un outil global qui sert les objectifs politiques. Il peut y avoir autre chose d'ailleurs que le militaire, et il faut qu'il y ait autre chose, le cas du Mali, mais je vous rends la parole, le cas du Mali sera discuté sur ce sujet.
On va effectivement peut-être redéfinir ces objectifs politiques concernant la guerre de Syrie. François Bernard Huyghe, bonjour.
Bonjour.
Alors vous, quelle serait votre réaction à ces propos
de François
Fillon ? Alors
ça dépend ce que vous appelez bombarder, ce que vous appelez gagner une guerre. Si on veut dire que un appui aérien important avec toute la technologie qu'ont les Occidentaux peut être un appui très précieux à des troupes locales au sol, oui, ça peut contribuer bien entendu à un résultat militaire. Des bombardements seuls, effectivement.
Mais actuellement,
surtout,
c'est ce qui se passe. C'est pour ça que la question
surtout,
se pose.
Surtout, si on prend l'exemple de ce qu'on fait depuis 2 ans en Irak et en Syrie, où on met une puissance de décryption et de technologie énorme face à quelques dizaines de milliers de bons hommes qui apparemment réussissent quand même à se terrer là-dedans, ça ne semble pas très efficace. Mais surtout, la vraie question, c'est que signifie gagner une guerre ? Je suis d'accord avec le général, il faut revenir aux fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est qu'on fait la guerre en vue de la paix. Hein. Mais quelle paix ? Si autant on pouvait espérer faire céder Milosevic, qui a calculé en pertes et gains, autant lorsqu'on est face à un phénomène comme l'État islamique, enfin ce qui s'appelle lui-même un État islamique, on les imagine pas signant un traité de paix qu'on s'attend leur reddition ou ouvrant une capitale qu'ils n'ont pas d'ailleurs en réalité à des troupes ennemies. Ils sont dans une sorte de d'engagement mystique qui ne peut se terminer que de manière absolue, par leur victoire absolue ou leur défaite absolue. Donc je dirais juste, il y a un paradoxe. Nous occidentaux, on n'imagine pas que militairement on puisse perdre. Je veux dire, le califat viendra pas s'installer un jour à Washington DC. Mais en revanche, psychologiquement, je ne suis pas sûr que nous ayons les capacités de vaincre. Mais eux, techniquement, ils n'ont pas les capacités de gagner. Mais psychologiquement, je ne les imaginais pas perdant. ou se rendant, sauf à les massacrer tous, et c'est peut-être ça le problème de fond.
Alors, vous parliez de la définition de la guerre. La guerre, elle a été instituée par le président de la République quand il a décidé que, ou déclaré que nous étions dans un état de guerre.
Une guerre donc, à qui?
Alors, il n'a pas forcément précisé, sauf peut-être le terrorisme qui, dont la source est, semble-t-il, Daesh. Jean-François Daguzan.
Oui, et c'est un problème de fond. Dès l'offensive, l'opération Serval et le Mali, le président de la République a dit « nous faisons la guerre au terrorisme ». Ça ne veut rien dire. C'est terrible de devoir dire ça clairement, mais ça ne veut rien dire. Le terrorisme est une idée, un concept, ce que vous voulez, donc vous ne faites pas la guerre à un concept. Vous faites la guerre à des gens. Or, la difficulté que la France, enfin, le gouvernement et tout ce qu'il représente à nommer l'ennemi, à savoir le djihadisme, si vous voulez, ou l'islamisme politique radical armé, si on veut faire plus long, est un véritable problème parce que la non-désignation de l'ennemi entraîne à la fois l'incompréhension d'une population qui est susceptible de soutenir les opérations et d'autre part risque de faire perdre l'objectif, justement, qui est bien la destruction d'individus porteurs d'une idéologie et en guerre, eux, très clairement, contre la France. Et ça, pour le coup, c'est essentiel. Il faut revenir. Alors, ça a commencé progressivement. Le Premier ministre a parlé, après Charlie, d'islamofascisme. Ensuite... On avait avancé vers quelque chose. On a parlé de djihadisme après le Bataclan et les attentats du 13 novembre. Mais on en reste toujours sur cet élément extrêmement fluctuant et impalpable qui fait que l'on n'arrive pas à désigner, et c'est un véritable problème. L'affaire
On les désigne par le fait que l'on bombarde de certains endroits et pas d'autres, donc on voit
oui,
bien
mais
que
ça, l'ennemi... ça ne suffit pas, si vous voulez, justement, à constituer un but de guerre. Le but de guerre doit normalement s'établir sur un ennemi désigné avec, ensuite, comment dire, en déroulant une stratégie qui se ensuite évolue vers de la tactique, c'est-à-dire les points que l'on va cibler. Or, aujourd'hui, on est justement vis-à-vis de Daesh sur cette incertitude, déjà sur le nom même, puisque on n'ose pas vraiment l'appeler État islamique, on utilise l'acronyme arabe Daesh. Déjà, le seul fait de buter sur la désignation de cet ennemi-là pose un problème en soi et qui est plus grave que sémantique, parce qu'il est aussi d'ordre opérationnel, d'une certaine manière.
C'est aussi parce que ça n'est pas un État constitué comme un autre.
Ah oui, mais c'est un proto-État ou voilà. C'est un État en constitution. Et le fait de refuser ce point de vue, cet élément-là, pose justement un problème de fond.
Jean-Claude Allard, sur la définition de cet état de guerre qui a été proclamé sans, avec toutes les réserves que viennent d'évoquer Jean-François
Daguzan.
Oui,
là aussi, permettez-moi de revenir donc aux fondamentaux, puisque c'était le terme état de guerre. Dans une guerre, il y a un pivot qui est le politique et deux acteurs, c'est son armée de son côté, avec ses autres moyens naturellement, et de l'autre côté, c'est son ennemi. Rôle du politique. Le rôle du politique est d'abord de désigner l'ennemi, parce que ce n'est qu'en désignant l'ennemi que l'on sait si ce que fait cet ennemi est contraire à nos intérêts ou pas. Donc il n'y a pas d'ennemi dès lors que la personne qui est en face de vous n'est pas contraire à nos intérêts. Donc il faut le désigner clairement, je peux y revenir. Et ensuite, la deuxième chose que doit faire le politique, c'est aller rechercher des alliances. C'était le rôle fondamental du politique, c'est s'allier avec d'autres acteurs qui pourront l'aider dans sa poursuite, définir une stratégie politique et avec des objectifs politiques, et le militaire, lui, derrière, déclinera la stratégie militaire. Alors, pour revenir sur l'ennemi, il y a le terrorisme, on tourne autour du pot. Je vais, pour un peu secouer les esprits, dire une chose, c'est que sur le théâtre syrien, il est arrivé en septembre 2015 un événement qui a changé la figure stratégique, c'est l'entrée en guerre de la Russie. Et à partir de là, il y a eu des miaulements dans le camp occidental et la Russie a dit « bon, ben, j'ai très bien compris, moi vous dites que pour moi, l'ennemi c'est pas Daesh ou qui que ce soit, c'est l'islamisme ». C'est-à-dire cette idéologie politique qui, manipulant et s'appuyant sur la religion qu'elle utilise comme un moyen de motivation et aussi, n'oublions pas, un moyen de coercition, parce que lorsqu'on exécute des gens au profit qu'ils ne sont pas dans votre camp, c'est on fait de la discipline, si je puis dire, vis-à-vis des autres. Et donc, les Russes ont posé cette question. Et d'où agitement dans le camp occidental, la Jordanie s'est vue confier la mission de désigner qui étaient les ennemis et qui étaient les amis. Alors, on peut dire ce qu'on veut des Russes, mais il n'empêche que ça a clarifié la situation, puisque maintenant, on a eu, il y a 10 jours, je crois, un accord russo-américain avec des débuts de cessez-le-feu. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans cet accord? Il s'est passé ce qui aurait dû se passer dès le début. C'est que les Américains, ils ont dit à un certain nombre de groupes, vous, on vous soutient, arrêtez de combattre, parce qu'ils ont bien vu, à mon sens, que ceux qui faisaient l'effort sur le terrain, c'était les Russes.
Donc ça veut dire que là, vous dites en gros que les Russes, eux, ont un ennemi qui est beaucoup plus clairement désigné que le nôtre.
Oui.
Sauf que c'est compliqué, puisque nous, on a soutenu plutôt les mouvements rebelles.
Nous, on a un ennemi qu'on désigne pas, mais contre qui on combat. Il n'y a pas que la Syrie. Moi, à ma connaissance, les forces françaises, elles sont engagées depuis janvier 2013 dans la bande sahélo-sahélienne. En janvier 2013, on a déployé 9500 hommes. C'est la plus grosse opération des forces armées depuis la guerre du Golfe. On a déployé des avions, on a engagé un argent fou, et on l'a engagé parce que réellement il y avait un ennemi là. Donc c'est pas que Daesh, c'est tous ceux qui se raccrochent à l'idéologie islamiste et qui veulent. Donc vous voyez que les armées françaises sont déployées au Mali, elles sont déployées en Syrie. Elles ont été déployées un temps en Somalie, où il y avait déjà à l'époque les prémices. Elles ont été déployées en Afghanistan, et c'était toujours des ennemis qui avaient des noms différents, dont on avait l'impression qu'ils étaient antagonismes entre eux, mais qui en fait sont tous dans la même idéologie. Juste un dernier exemple. Il y a quelques mois, il y a eu les forces dites talibans en Afghanistan se sont emparés de la ville de Kunduz. Ça a duré, ils sont restés 4-5 jours dans la ville et les forces afghanes ont réussi à les sortir. Qu'il y avait dans cette coalition qui s'est emparée de Kunduz? Il y avait les talibans, nos vieux ennemis depuis une dizaine d'années, et puis il y avait un fort contingent de l'État islamique, autrement dit Daesh, mais permettez-moi de parler d'État islamique parce qu'il faut regarder l'ennemi dans les yeux. Voilà, donc ça veut dire que la coalition existe et qu'ils sont tous contre nous.
François Bernard Huyg, sur cette définition de l'ennemi.
Alors effectivement, il faut le premier acte du politique, c'est de désigner l'ennemi et de bien le nommer. C'est assez amusant, entre parenthèses, de voir la présidence socialiste reprendre ce terme de guerre au terrorisme qui avait beaucoup fait rire quand le président Bush l'avait utilisé, qui avait été qualifié de fort réactionnaire à l'époque. Alors effectivement, qui sont nos adversaires parmi ces nombreux groupes? Et puis surtout, est-ce que nous pouvons écrire sur un bout de papier à quoi ressemblera la victoire? Est-ce que la victoire, c'est le jour où il n'y aura plus aucun risque que personne ne fasse d'attentat en France? Est-ce que la victoire, c'est le jour où tous les djihadistes, qu'ils soient État islamique, Al-Qaïda, Canal historique, ou d'autres, y compris ceux qui grenouillent sous couvert de l'armée syrienne de libération, auront disparu? Est-ce que ça sera le jour où l'Irak et la Syrie auront un gouvernement stable, si possible, démocratique? Ou, plus horrible encore, comme hypothèse, est-ce que ce sera le jour où toutes les forces en présence dans la région auront, y compris les Kurdes, par exemple, auront des frontières fixes qui ne seront plus remises en cause? Si on peut répondre à ces questions, à mon avis, on a fait un gros progrès.
France Culture, Science Publique, Michel Albert-Gonti.
Syrie, peut-on gagner une guerre derrière un écran? C'est la question dont nous débattons aujourd'hui avec nos invités. Jean-Claude Allard, général directeur de recherche à l'IRIS. Jean-François Daguzan, directeur adjoint à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Et François Bernard Huyg, chercheur à l'IRIS et spécialiste des questions de terrorisme. Alors on a essayé de donner une première piste sur le problème auquel on est confronté, qui est la difficulté de définir un ennemi. Y a-t-il un lien entre cette difficulté et la stratégie adoptée, c'est-à-dire les frappes aériennes, Jean-François Daguzan?
Le choix des frappes aériennes, comme souvent, est une réponse par défaut. La réalité, si on regarde le terrain, est que ce devrait être bien d'autres pays que nous qui devrions nous occuper de cette question-là. L'Irak envahit la Syrie, l'Irak plutôt coupé par le Daesh, État islamique, l'Est de la Syrie de la même façon. Les acteurs locaux devraient avoir au minimum un intérêt direct à la résolution du problème avant même que nous l'ayons nous-mêmes. Les Irakiens, on le voit, n'arrivent pas à s'en défaire. Bon, le front syrien, nous le connaissons, il est en fait figé depuis déjà pas mal de temps. Et ce n'est pas, que dirais-je, la montée sur Parmir ou la descente sur Parmir qui change beaucoup de choses. Le Daesh, en réalité, s'est emparé en Syrie d'un espace vide. Hein. C'est ça son principal fait de gloire, hein, d'une certaine manière. Et côté irakien, il a profité de la faiblesse insigne de l'armée irakienne. Donc, les acteurs locaux qui sont-ils? Bon, en dehors des deux pays concernés, donc des deux gouvernements concernés, c'est l'Arabie Saoudite, intérêt direct, et Daesh a menace idéologiquement, religieusement et politiquement l'Arabie Saoudite en ayant déclaré le califat, qui est une insulte directe aux Saoudiens, hein, soyons clairs. Bon, le Qatar, même chose, la Turquie qui a pour le coup un intérêt direct, immédiat, vis-à-vis de sa zone périphérique, etc., etc. Les Russes, on se demande pourquoi les Russes sont intervenus. Il faut quand même se replacer dans le plan géographique, quand même. La distance entre Grozny et Alep, c'est 700 km à vol d'oiseau. C'est plus 1140 km en voiture. C'est plus près qu'entre Hendaï et Lille. Hein, donc, encore une fois, les Russes peuvent avoir des idées globales et idéologiques également derrière la tête, la reconquête de la prééminence russe. Il y a aussi un élément direct qui est le fait qu'il faut fixer là ce qui ne doit pas revenir en Tchétchénie, par exemple. Bon, mais au-delà justement des Russes qui ont affirmé, et le général l'a bien montré tout à l'heure, ont affirmé le retour d'une position claire et identifiée à la fois tactique et stratégique vis-à-vis de l'ennemi, nous, finalement, nous sommes là par défaut parce que l'ensemble des autres acteurs régionaux sont défaillants ou s'intéressent à autre chose. L'Arabie Saoudite s'intéresse à qui ? Au Yémen. L'Égypte, qui pourrait être un acteur, a le Sinaï à régler chez elle. Et la Turquie, cerise sur le gâteau, s'intéresse aux Kurdes. Autrement dit, les acteurs locaux s'intéressent à beaucoup plus d'autres choses qu'à la réalité de Daesh. Et qui est au feu ? Les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne.
Alors justement, la question est du fait que l'on a décidé de passer à l'action malgré la défaillance ou l'absence des acteurs locaux. Est-ce qu'on a fait le bon choix de stratégique, puisque c'était aussi ce que soulevait François Fillon, cette absence de son point de vue d'une véritable stratégie, Jean-Claude Allard?
Oui, donc nous partons quand même du principe que l'État islamique doit être vaincu sur le terrain. Je mets dans le même sac immédiatement, parce que moi je n'utilise pas le terme terroriste, le Al-Qaïda avec notamment Jabhat al-Nosra. Donc ce sont nos ennemis. Il faut les vaincre sur le terrain, là-bas, mais aussi dans le Sahel, en Libye, car ils montent en puissance en Libye. Comment peut-on faire ? Eh bien, bien évidemment, il faut une action militaire. Une action militaire, c'est la combinaison de forces au sol et de bombardement. Mais nous faisons cela dans une région qui a été très sérieusement étriée dans le passé, mais surtout depuis 2003, et l'immense invasion de 400 000 militaires américains en Irak. Bien sûr, cette opération a permis d'évacuer Saddam Hussein, mais il n'empêche que depuis, l'Irak est à feu et à sang. Et donc je pense qu'une intervention occidentale, dans laquelle il y aurait d'ailleurs des dimensions américaines, même si elle était acceptée par ou même si elle est aujourd'hui attendue par une partie de la population, serait rejetée par une autre partie. Je suis incapable de peser les différents camps, mais je pense que ce serait une très mauvaise chose. Puis la deuxième chose, c'est que il faut avoir les moyens de se faire. Alors je reviens au nous. Vous me posez la question en me demandant nous. Moi je réponds, mais nous Français, nous coalition américaine avec ces 66 pays, quoi exactement?
Ça peut être déjà effectivement la coalition, mais on le prend souvent sous l'angle qui nous est le plus proche, c'est la position de la France.
Alors, la solution de la France, moi, je vais vous dire, je repars, je suis parti donc de la définition de l'ennemi, l'islamisme. Son expansion géographique, c'est le Proche-Orient et toute la bande sahélo-saharienne.
Là, vous nous dites que l'ennemi, c'est l'islam.
L'islamisme,
mais comment vous le définissez?
Cette idéologie, je l'ai définie. Je la redéfinis, qu'il n'y ait pas de confusion.
C'est une idéologie. Je me permets de vous demander de le faire.
Voilà, je la reprécise. Une idéologie de conquête politique qui manipule la religion comme moyen de motivation. Venez avec nous, vous aurez le paradis, et là. Et comme moyen de coercition. Car c'est une idéologie d'exclusion. Et ce que dit le calife Ibrahim, c'est ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. Raison pour laquelle, d'ailleurs, l'islamisme s'attaque aussi aux musulmans, qui ne veulent pas les suivre. Donc nous ne parlons pas de religion, là. Nous parlons d'une idéologie de conquête politique qui manipule des sentiments profonds que tout homme a, le sentiment de la transcendance. Bon, voilà, ça c'est clair, je pense.
Revenons donc à la stratégie.
Et donc sur la stratégie, ça commence aux frontières au Maroc, etc. Et ça s'étend de partout. Parce que revenons aux objectifs politiques énoncés par l'État israélien. Islamique et le calife Ibrahim lorsqu'il a pris le pouvoir en juin 2014. Il a fait un sermon dans la mosquée de Mossoul et simultanément il faisait diffuser par son attaché de presse un papier de 2 pages dans lequel il y avait ses objectifs. Parmi tous les objectifs, je les rappelle, c'est 1. Reconstituer le califat à partir du territoire de Cham, et je précise que Cham c'est aussi le nom qu'on donne à Damas. Donc l'objectif sur le terrain là-bas c'est Damas. Et donc je rappelle qu'ils ne sont pas à Damas, mais le jour où ils sont à Damas, c'est comme lorsqu'on a les Américains ont lancé une bombe sur Hiroshima. Tous les gens vont dire ah magnifique, magnifique, ils ont réussi leur pari. Deuxièmement, étendre le califat à l'ensemble de la communauté, la Sunna, c'est-à-dire comme il était traditionnellement, depuis l'Espagne jusqu'au Khorasan, c'est-à-dire à grosso modo l'Afghanistan et puis l'Ouzbékistan actuel. Et troisièmement, conquérir Rome. Rome, c'est l'Occident. Donc il y a 3 fronts. Donc là aussi, il faut, nous, ces 66 pays, et donc la France et les États-Unis qui sont moteurs là-dedans, mais la France ne fait aujourd'hui que 5 à 10% des frappes des États-Unis, eh bien, se partager la tâche. Et donc, si vous dites nous, moi je verrais très bien un rôle majeur de la France dans toute la bande sahélo-saharienne pour prendre à fond cette responsabilité, parce que les Américains sont moins bien vus que nous par ces pays. Hein.
Qu'est-ce que vous voulez dire par prendre à fond cette responsabilité?
Écoutez, aujourd'hui, nous avons 3500 hommes pour couvrir une superficie grande comme l'Europe. Et on a des détachements, on a 19 hélicoptères, on a une poignée d'avions. Et quand ça pète quelque part, on rassemble ces maigres moyens et on essaie de faire face. Donc, si vous voulez,
Donc, vous voulez
très
dire
difficile.
Plus de moyens humains
plus
sur,
de moyens là-bas,
au sol?
Nous, on travaille au sol dans la bande sahélo-saharienne, et puis on garde quelques avions en Syrie et Irak parce qu'il faut une certaine présence, ça permet d'afficher surtout du politique, et puis on essaie de contenir, de repousser l'ennemi progressivement. Tandis que là, on est partout et nulle part.
François Bernard Huyghe.
Il y a un paradoxe objectif qui est, si j'ose dire, le paradoxe de l'objectif. Nous, nous avons visiblement beaucoup de mal à savoir qui est notre ennemi, ce que nous voulons faire, en quelles conditions.
Ça, c'est ce que disait Jean-François Daguzan.
Voilà, la victoire.
Mais définir l'ennemi comme le terrorisme, c'est
oui,
forcément.
Le terrorisme, c'est un moyen d'action, c'est pas une idéologie, flou. Un pays, on est bien d'accord. Mais eux, entre guillemets, enfin, en l'occurrence, l'État islamique, ou ce qui veut devenir un État islamique, effectivement, n'ont aucun mal à énoncer leurs objectifs. Il y a des objectifs géopolitiques. Ils parlent tout le temps de la ligne Sykes-Picot qui a été instaurée après la Première Guerre mondiale, dont personne ne parle chez vous. Ils ont des objectifs territoriaux. Un de leurs slogans, c'est « le califat durera ». Donc, ils veulent s'inscrire dans la durée. Ils veulent effectivement aller jusqu'à Al-Andalus, hein, et tout ça, on l'a dans leurs nombreuses proclamations. Bon, je passe une petite partie de mon temps à faire quelque chose d'assez horrible qui consiste à regarder des vidéos des djihadistes. Hein, et pendant qu'ils égorgent des gens et qu'ils font des choses abominables comme ça, ils parlent. Et c'est abominable à dire, mais ils ont un discours cohérent dans sa logique démente, où ils annoncent, par exemple, les neuf du 13 novembre, ceux qui avaient enregistré une vidéo avant d'aller accomplir leur attentat, et donc en sachant que le 13 novembre à minuit, ils seraient morts, expliquent, tout en coupant des coups, que le prochain objectif sera, par exemple, Al-Andalus, l'Espagne, et qu'il y a une volonté d'expansion totale. Donc là, effectivement, on est devant quelque chose qui est démentiel, mais qui est cohérent dans sa logique folle, avec qui on peut pas négocier, c'est clair.
Donc, de ce fait, l'objectif, semble-t-il, ne peut être que la destruction de cet État.
La fin du djihadisme, et par djihadisme, j'entends quelque chose de très précis qu'eux-mêmes expliquent, c'est-à-dire ce qu'ils considèrent être l'obligation religieuse de se battre pour punir les juifs, les croyants, les mécréants, etc.
Donc là, il a été fait référence justement à ce caractère fanatique de ce mouvement et donc à la difficulté ou à l'impossibilité d'envisager un accord politique, par exemple, ou une espèce d'entente qui permettrait de mettre fin au conflit.
Au stade actuel, on ne voit pas très bien ce qu'il y aurait à négocier. Le terme fanatique est assez exact parce qu'étymologiquement, le fanatique, c'est celui qui veut défendre son fanum, son temple, dans un état de rage et de fureur. Donc, la victoire militaire ne peut reposer, comme toujours, que sur une victoire politique, qui est l'effondrement de leur volonté, donc la disparition de cette forme de djihadisme.
Oui. Donc là, on est d'accord sur finalement une forme d'objectif. La question, c'est justement les moyens que l'on met en œuvre aujourd'hui par rapport à ceux qui peuvent paraître nécessaire. Est-ce que cette guerre à distance limitée à des frappes aériennes, Jean-François Daguzan, est la réponse à cet objectif et permettrait de l'atteindre, selon vous?
Nous en revenons à ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le modèle employé en Syrie, je dis bien en Syrie, hein, est un modèle par défaut. Nous utilisons les bombardements aériens, faute d'une vision cohérente sur le choix politique, c'est-à-dire la destruction de Daesh, de l'État islamique, et les moyens de le faire concrètement sur le terrain. L'absence de candidats, entre guillemets, à l'opération terrestre fait que l'usage des bombardements aériens est un pis-aller. Ni les Kurdes, qui se contentent de défendre, d'ailleurs, ça leur suffit à la peine, leur territoire, ne peuvent passer de ce côté-là. On a vu que l'armée irakienne est incapable de se reconstruire et que même, je dirais, les groupements conduits par les Iraniens ne parviennent pas vraiment non plus à remonter la pente. Donc, seuls des pays du Golfe et du Moyen-Orient seraient susceptibles, comme dans le cas du Yémen, mais encore une fois, là aussi, la situation du Yémen n'est suffisamment pas bonne pour montrer que c'est un bon exemple. Donc, c'est une coalition arabe de la zone élargie, avec peut-être une intervention des Turcs de l'autre côté de la frontière, en tenaille, pourrait arriver à un résultat efficace, c'est-à-dire la destruction et la réoccupation du terrain perdu. Mais pour l'instant, on ne l'a pas.
Les seuls qui se battent sont les Kurdes, apparemment.
Les seuls, ce que je disais, qui se battent vraiment, mais plutôt sur un modèle défensif, parce qu'ils défendent leur territoire, ce sont les Kurdes. Et on ne peut pas pousser les Kurdes au-delà d'une certaine capacité qu'ils n'arriveraient pas à fournir.
Là, on tourne un peu autour du pot, si je puis dire. La question est, si on n'a pas de volonté ou des moyens d'envahir l'État islamique et donc de le détruire, puisque ça paraît être la seule façon de régler le problème. Jean-Claude Allard, à ce moment-là, à quoi sert de bombarder la situation actuelle depuis quand même déjà un certain temps et semble-t-il sans perspective particulière?
Oui, donc la description de la situation sur le terrain a été donnée par Jean-François Daguzan. Donc on voit bien que à l'est on a des Kurdes qui tiennent sur la limite de leur mythique Kurdistan et ils iront pas plus loin. Pourquoi se faire tuer pour autre chose que leur pays? Donc ils iront là et à la fin de la guerre ils négocieront leur futur du Kurdistan au sud de l'Irak. Tient tant bien que mal. Un jour, elle perd Tikrit, le lendemain, elle gagne Ramadi et vice-versa. Donc, ça contient un petit peu. Et puis, à l'ouest, on a le gouvernement syrien et l'armée syrienne. Et cette espèce de pot, si vous voulez, dans lequel, au sein duquel les islamistes Al-Nusra et l'État islamique ont développé leur puissance, échappe ces vapeurs par la frontière turque. Regardons un peu la carte. Et pour faire la guerre, il faut de l'armement, il faut des munitions, il faut de l'argent, etc. Et des guerriers. Tout ça transite par la frontière turque. Donc, sur la carte, on voit très bien ce qu'il faut faire comme stratégie militaire. Alors là, je dis ça pour arriver à la conclusion après. Il faut fermer la nasse en haut. Et qui est en train de tenter de fermer la nasse? L'alliance russo-irano-syrienne qui voulait prendre Alep, qui est en train de le prendre et qui a quelques accords avec l'alliance kurdo-arabe qui s'est fondée et qui veut relier Alep et Kobané et fermer la frontière. Et si les Turcs viennent en permanence se plaindre auprès de l'OTAN et de l'UE, si les Turcs ont abattu un avion russe, c'est parce qu'ils ont compris cette stratégie, ou plutôt cette tactique opérative, parce qu'on n'est pas dans la grande stratégie, des Russo-Syriens, et qui savent que tout sera fini, ils pourront plus taper sur les Kurdes, et l'État islamique va finir. Et je crois aussi, pour terminer, aussi en regardant, deux choses. C'est que l'État islamique, depuis septembre, a compris ça. Et qu'il risquait de se faire enfermer dans une nasse, donc il monte en puissance en Libye et il tente de prendre de l'air dans cette montée en puissance en attaquant également la Tunisie. Vous avez vu, la semaine dernière, il y a eu 70 morts, une massive attaque dans une ville. 60 hommes ont essayé de s'emparer d'une ville. Mossoul, 400 000 habitants, je crois, ils étaient 1500 à 2000 pour s'en emparer. Donc tout est possible, tout est possible. Et la deuxième personne qui, à mon sens, a compris ça, c'est le président Obama. Le président Obama a déclaré en janvier 2014, nous n'avons pas de stratégie exactement. Parce que lui, c'est son job. Il avait dit dans un discours de 2008 à West Point, on peut plus agir militairement directement. Il faut manipuler. Enfin, excusez le mot, c'était pas si péjoratif que ça. Mais il faut faire de la smart stratégie. Il faut faire par les proxys, c'est-à-dire les troupes au sol et tout. Et là, il a trouvé des troupes au sol qui semblent être désormais un peu plus performantes qu'avant. C'est l'alliance russo-syrienne. Il faut regarder les choses en face. Il faut arrêter de se mentir à soi-même. Donc voilà.
Alors
il faut
le
ça.
Président nous, Obama, justement, lui, semble-t-il être aussi un adepte des drones et de ce genre de matériel.
Oui, l'augmentation énorme des drones.
Voilà. On parle de 7000 aujourd'hui ou un peu plus qui fonctionnent 24 heures sur 24. Exactement, sur le théâtre des opérations et qui donc jouent forcément un rôle, François-Bernard Huyghe. Est-ce que c'est pas là une étape qui est franchie dans la façon de faire la guerre, c'est-à-dire utiliser des écrans à des dizaines de milliers de kilomètres, enfin moins des milliers de kilomètres du théâtre des opérations, avec semble-t-il des problèmes psychologiques pour les pilotes de ces avions à distance, de ces drones télécommandés, puisqu'ils démissionnent, sont remplacés, et on essaie même de les attirer avec des primes substantielles de $125 000 pour trouver de nouveaux candidats. Donc
Pourquoi, ah, pourquoi utiliser des drones? Alors d'abord, pour ces raisons qui ont déjà été exposées, bah, si on utilise des drones, ça évite d'envoyer des bons hommes.
C'est une autre façon de faire la guerre par défaut.
Deuxièmement, ça correspond tout à fait à une culture technologique ou technophile qu'on retrouve dans les milieux stratégiques américains. Et je dirais même que ça correspond assez, je ne dirais pas la psychologie d'Obama ou des démocrates, ou etc., mais en tout cas à une volonté de marquer une différence, par quelque chose de ciblé, de désorganisateur, etc., par rapport à la méthode Bush. Au total, les résultats sont peut-être pas forcément meilleurs. Oui, alors il y a cette obsession du drone. Alors le drone, effectivement, il vous évite de perdre des bons hommes au sol.
Alors que se passe-t-il dans les containers là, ces endroits assez...
Alors il pose deux problèmes.
Très clos.
C'est très joli la technologie, mais ça fait des tas de bavures, et le drone a une tendance à tuer des civils, à tuer indistinctement, malgré toutes les caméras, les systèmes de contrôle, les logiciels qu'on met derrière.
Il y a quand même des conséquences de cette distance. C'est-à-dire que déjà, l'opérateur du drone a les images avec 2 secondes de retard, je crois. Ensuite, quand il envoie son missile, je crois qu'il se passe peut-être 10 ou 15 secondes avant que le missile touche sa cible. Donc tout ça, ça crée quand même des délais pendant lesquels la scène d'attaque peut avoir totalement changé, même
oui,
deux
c'est
secondes.
C'est le problème c'est long. Alors d'une part, pour un qu'on tue et qu'on vise, on tue beaucoup de civils. Et par ailleurs, il y a le problème qu'avait exposé un général en disant on en tue 4 le matin, on en a 10 qui s'engagent dans le djihad le soir. Et celui qui est derrière son écran a effectivement des problèmes psychologiques, et la distance posée par l'écran ne supprime pas la question de l'horreur de cet acte.
France Culture, Science Publique, Michel Alberganti.
Syrie, peut-on gagner une guerre derrière un écran? C'est la question dont nous débattons aujourd'hui avec nos invités. Jean-Claude Allard, général et directeur de recherche à l'IRIS. Jean-François Daguzan, directeur adjoint à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Et François-Bernard Huyghe, chercheur à l'IRIS et spécialiste des questions de terrorisme. Jean-Claude Allard voulait réagir sur la question des drones.
Oui, je voudrais réagir sur la question de drones en donnant quelques informations pour arriver à clarifier le débat. Oui, le drone est un engin qui est contrôlé à distance par des gens qui sont dans une cabine, et par les transmissions radio satellitaires, on peut être installé dans une garnison du Nevada aux États-Unis et manipuler un drone au Proche-Orient. Mais je crois qu'il faut bien comprendre que le drone peut s'employer dans deux cas. Ce qui a terni l'image de cette arme, c'est en fait l'utilisation qui en a été faite hors théâtre d'opération, c'est-à-dire qu'il a été utilisé pour aller abattre des gens, des chefs de guerre, mais dans des endroits où il n'y avait pas réellement d'opération, le Yémen et autres. Et donc ça procédait aussi de l'idée de dire, finalement, au lieu d'engager des guerres où des armées vont s'affronter, etc., tuons le chef et ce sera fait. Je rappelle que c'est une vieille idée et que les conjurés de... Excusez-moi, j'ai pas le nom, mais qui ont essayé de faire exploser une balise sous la table de réunion de Hitler, étaient tout à fait dans cette idée. Donc, on tue le chef et ça va. Donc, c'était dans cette idée. Seulement, c'était comme il n'y avait pas un état de guerre déclaré, il y a eu des problèmes juridiques, etc., qui se sont posés. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est l'utilisation du drone dans une guerre. Et là, on est quand même dans une guerre parce que il y a soit des Kurdes au sol, soit l'armée irakienne que les Américains essaient de soutenir. Donc là, le drone, il fait deux choses. Premièrement, il reste assez longtemps en l'air, donc avec les caméras, il donne de l'info. Et deuxièmement, il tire des armes. Quelle arme tire-t-il? Les drones, actuellement, sont équipés d'un missile dit Hellfire, qui est un missile qui a une portée maximale de 8 km, qui a une tête explosive de 3,5 kg, donc c'est-à-dire que c'est pas grand-chose. Et qu'en fait, ici, je vois en face de moi une grue par la fenêtre du studio qui se trouve à environ 2,5 km, 3 km, et un drone pourrait tirer un missile, il exploserait dans cette pièce, il nous tuerait tous les quatre, mais sauf si quelqu'un passe dans le couloir juste derrière, toute l'équipe technique qui est à côté n'aurait rien.
Vous voulez dire que c'est ultra chirurgical, en fait?
Non, c'est pas chirurgical, ça délivre des armes de faible puissance. Le chirurgical, oui, c'était un terme un peu général, parce que il y avait
pas forcément
des bombes,
très bien choisi.
Voilà, il y a des bombes de 250 kilos qui tirent. Tandis que quand vous êtes sur un avion, les Américains, ils tirent des bombes de 250 kilos d'explosifs, et ils les tirent depuis des distances de 40 kilomètres ou 50 kilomètres. Alors, quand vous disiez que la scène change, là où elle peut changer. Et quand la bombe de 250 kilos explose...
Mais même un drone, même ces kilomètres dont vous parlez, il faut un certain temps pour que le
missile
parcourt...
Oui, il faut 10-12 secondes, mais... La scène ne change pas comme ça.
Plus les 2 secondes de retard, voilà. Vu au fait que les images doivent arriver aux États-Unis.
Donc je crois que c'est surtout l'utilisation de cet engin dans des pays pour lesquels il n'y avait pas eu de ce qu'on appelle des accords avec le pays en disant on vient faire la guerre chez vous, on vient vous aider à régler votre problème et tout, qui pose problème. Là, on est dans un état de guerre, c'est clair.
Il y a quand même des comptabilités du nombre de civils tués par les drones qui sont assez préoccupantes.
Notamment sur la frontière pakistanaise.
Oui, il y a eu 69 dans une madrasa, ils ont tué 2 otages occidentaux. Alors, ceci dit, le drone, après, on peut discuter de sa précision, de son efficacité en termes techniques. Je crois qu'il pose d'abord un problème qu'a évoqué Jean, qui est un problème politique, qui est la tentation d'aller utiliser ce machin qui a l'air anonyme et technique. Ouais. Là où on viole une frontière. L'exemple le plus évident, c'est le Pakistan. Hein. La doctrine Obama, c'est d'utiliser beaucoup de pour faire de l'assassinat ciblé, hein, appelons les choses par leur nom. Au Pakistan, évidemment, l'effet sur les populations où c'est pakistanais est tout à fait déplorable. Par ailleurs, le drone, il a en quelque sorte une dimension symbolique. C'est un espèce de machin anonyme qui vous menace à tout moment, qui peut vous tuer à tout moment. Il y a eu un film, je crois que c'était de la BBC, Living in a Drone, qui montrait ce côté-là. Et là, il fournit beaucoup d'arguments à la propagande adverse, a fortiori s'ils bavent en tuant des enfants, comme ça arrive souvent.
Alors justement, est-ce que c'est pas une arme qui est à la fois tentante, parce que c'est l'arme moderne, c'est l'arme propre pour celui qui l'utilise, qui ne présente pas de risque de perte humaine, mais en même temps qu'il y a des effets psychologiques, semble-t-il, en dehors même des victimes civiles collatérales, comme on dit, il y a aussi des effets psychologiques sur la population, et même sur les pilotes de ces drones, Jean-François Daguzan. Donc il semblerait que tout soit pas aussi parfait que ça dans
faut quand même rappeler que toute innovation technologique militaire a créé ce genre de choses. L'arbalète, qui a été une avancée considérable il y a quelques siècles, a été considérée comme une arme criminelle. D'abord parce qu'elle perçait les armures, ce qui, pour le coup, vis-à-vis du chevalier qui en avait une, était quand même très, très peu fair-play, et qui fut interdite par l'Église, justement, comme ne répondant pas au code éthique de la guerre. Donc, ça ne date pas d'hier. Ensuite, bien entendu, c'est derrière ce type d'arme qui a sa justification, et aussi en rappelant quand même qu'il y a des drones de renseignement et des drones visant à produire un effet militaire, c'est-à-dire avec une charge d'explosifs, et qu'on parle
armée,
de cette deuxième partie, de ce deuxième, cette deuxième caractéristique, bien entendu. Il faut bien voir que le débat est venu progressivement, essentiellement, comme cela a été rappelé par mes deux camarades, par le fait que c'est la CIA qui les a utilisés pour des opérations d'exécution directe, comme l'a fait d'ailleurs Israël également de son côté.
Enfin, on n'a pas besoin de 7000 drones pour ce genre d'opération particulière.
Mais que, bien entendu, il y a aussi donc cette utilisation du drone militaire, entre guillemets, tueur, comme le dit la presse, qui vise à des opérations militaires.
Enfin, c'est pas entre guillemets, c'est quand même son objectif.
Non, mais c'est le terme
pour
lui-même.
Pour celui qui est armé, voilà. Son objectif est bien de tuer.
C'est-à-dire qui s'inscrit dans des opérations militaires extrêmement codifiées, dans lesquelles la recherche, justement, d'un effet extrêmement précis va porter des fruits, si vous voulez. Donc, et c'est normal, le débat autour des drones procède à la fois de l'ennemi qui considère qu'étant frappé de façon injuste par cette arme immorale ou non éthique est un scandale, en oubliant de dire que l'attentat suicide, lui, n'en est pas un. puisque lui il est licite, hein, et de notre côté,
c'est par un peu le contraire de l'attentat suicide, là, c'est-à-dire
par
qu'il n'y a pas
de victime. Tous les groupes aujourd'hui qui sont dans la contestation de l'État en général, je parle dans le monde occidental, et des pratiques secrètes, etc., qui se sert de l'image du drone comme un moyen de contestation, comme les hackers attaquent les objets cybernétiques de l'État en tant que symbole. Donc on a cette dualité qui fait qu'il y a une arme, celle-ci est discutable, mais qu'elle est aussi, qu'elle a un sens militaire et évident.
Jean-Claude Allard, est-ce que le drone est l'avenir de l'arme guerrière?
Donc, je crois qu'il n'y a pas d'avenir ou d'armes d'avenir. Il y a, parce que en matière de militaire, tous les systèmes et tous les effets s'additionnent toujours. Parce que si on invente un système, c'est parce que il y avait un trou et une faiblesse dans le dispositif. Sur le drone, je voudrais quand même qu'on se mette face à
la France n'est pas tellement en avance sur les drones, semble-t-il.
Si. C'est pardon. La France n'est pas du tout en avance. Non, on a 4 drones, on n'a pas de drones, et justement. Je voudrais rappeler un incident, enfin un élément qui a fait polémique aussi, mais alors on est polémique, on fait de la polémique quand il n'y a pas de drone et on en fait quand il y en a. Donc il faudrait tirer les choses au clair. Mon cas est le suivant. Il y a quelques années, une compagnie française s'accroche avec un groupe de talibans. S'accrocher intermilitaire, ça veut dire tombe dessus et commence à faire la guerre. Ça se passait au fond de la vallée d'Ouzbine. Aujourd'hui, il y a des procédures judiciaires qui sont en cours, et notamment les parents d'un ou deux des soldats tués disent « mais oui, pourquoi ?» Et la polémique s'enfle. Et s'il y avait eu des drones, on aurait pu... Bien sûr, voilà, là on a besoin de drones. Et puis le lendemain, on dit « ah, mais là le drone est tueur ». Donc laissons, ne réagissons pas au fait comme ça, mais comme j'essaie de le dire tout à l'heure avec toutes ces affaires-là, ayons des méthodes de raisonnement et d'analyse qui nous permettent de comprendre. Donc le drone vient boucher un trou entre le combattant au sol et l'avion. Je voudrais rappeler aussi une chose, c'est que le drone fait partie, au point de vue militaire, je ne parle pas des drones de la CIA qui ont, j'allais dire, gâché la situation. Au point de vue militaire, ça fait partie d'un système. Et quand il y a drone, ça veut dire, pour les militaires qui font la guerre comme des militaires, qu'il y a également des troupes au sol et que ce drone va les aider, va permettre de déplacer ses caméras en avant et va pouvoir les renseigner.
Sauf que les Américains envoient des drones sans troupes au sol, là, actuellement.
Les Américains envoient des drones sans troupes au sol dans le cadre des frappes ciblées de la CIA. Quand ça se passe en Irak, ces drones, ils ont pour but de regarder, de chercher et de faire de l'appui. Par exemple, à Tikrit, ils ont appuyé l'armée irakienne. À Kobané, ils ont appuyé les Kurdes, etc. Il y a un lien, le drone donne de l'information aux gens au sol, les gens au sol confirment et disent « ah ben oui, ces hommes que vous avez vus sont bien des ennemis, ils nous gênent parce qu'ils nous tirent dessus, tirez dessus ». Voilà comment ça se passe dans la guerre faite par les militaires et pas par les agents secrets.
François Bernard-Huyghe, peut-être un mot aussi de l'utilisation de ces écrans par les djihadistes qui eux-mêmes sont devenus des experts en la matière.
Parce que si on l'a gagné en mettant son fanion dans une capitale, on a vu que ça marchait pas très bien. Les tuer tous, ça pose un certain nombre de problèmes. Donc vaincre leur volonté de combattre et les dissuader serait probablement la solution. Le problème, c'est que pour ceux de la propagande, de la contre-influence, comme vous voulez. Le problème, c'est que c'est eux qui sont bien meilleurs que nous en ce domaine, puisqu'ils ont bien compris la logique des réseaux sociaux.
Enfin, ils n'ont pas inventé Internet non plus.
Ils n'ont pas inventé Internet non plus, mais ils l'utilisent, j'allais dire, intelligemment, entre guillemets, hein, à la fois pour faire de la superproduction, c'est-à-dire ces vidéos auxquelles on se réfère, où il y a des massacres très stylisés, avec des caméras à Palmyre ou ailleurs, mais ils l'utilisent également pour donner des images beaucoup plus positives. Il y a des petits... presque des selfies, quoi, qui viennent tout le temps de Syrie, où on montre comme c'est sympa, au marché, comme les gens vivent bien, et comme une notion importante, un bon musulman devrait aller faire l'hijra, c'est-à-dire aller vivre là-bas. Ça, c'est une notion dont on n'a pas parlé, qui est hyper importante. Et il les utilise également dans une fonction de dialogue et de renforcement de la communauté sur les réseaux sociaux. Et ce que nous faisons en appelant ça contre-propagande, comme vous voulez, m'a pas ébloui par sa cohérence ou par son efficacité. On ne comprend pas qu'ils ont un autre code que nous. Think again, turn away, stop djihadisme, ou plus grotesque encore, cette vidéo que j'ai vue, produite, je sais pas, je crois que c'est par le gouvernement français, disant voilà comment Daesh te manipule, qui explique, qui répète des choses, il crée des obsessions, etc., et qui monte des images de partout, il y a même des monstres de l'espace ou des Grecs qui font la guerre, mais on voit pas un seul djihadiste, pas une seule Kalachnikov et aucune allusion à l'islam. Donc là, on peut pas aller plus loin dans l'erreur, quoi.
Jean-François Daguzan, pour conclure un petit peu sur ce rôle des écrans de part et d'autre, finalement.
C'est une bataille essentielle. Ce qu'on appelle le cyber-djihad dans les médias joue un rôle majeur. On sait très bien que, même s'il n'est pas totalement décisif dans le départ vers la Syrie, le prosélytisme cybernétique joue à fond. Sur la théorie du complot également, qui est un des éléments très importants désormais de la radicalisation. Donc on a là une tâche de fond, puisque dans sur la toile, vous allez trouver à la fois l'idéologie, c'est-à-dire le prêche d'un côté, vous allez trouver la formation et vous allez trouver les outils éventuellement du terrorisme. Donc à partir de là, on a un enjeu majeur sur cette toile.
Jean-Claude Allard, est-ce qu'il n'y a pas justement là une cible très claire qui pourrait permettre de tarir la source, finalement, des troupes de Daesh en quelques secondes?
Oui, il y a le moyen technique qui est le cyberespace, mais je pense que le cyberespace n'aurait aucune efficacité s'il n'y avait pas derrière une idéologie qui a tenu, et je tiens à le rappeler parce que je crois que tout est là, aux deux pages écrites par le calife Ibrahim lorsqu'il a pris son poste de califat, et à partir duquel tous ses subordonnés, tous ses adjoints greffent des stratégies à leur initiative avec efficacité.
Eh bien, merci. Le club, le débat de Sciences Publiques d'aujourd'hui, s'achève. Merci à Jean-Claude Allard, Jean-François Daguzan et François Bernard Huyg d'avoir participé à cette émission. Pour approfondir ce sujet, je vous rappelle les deux livres que j'ai mentionnés en début d'émission. Celui de Jean-François Daguzan, La fin de l'État-nation de Barcelone à Bagdad, paru au CNRS édition en 2015. Et celui de François Bernard Huyg, Désinformation, les armes du faux, paru chez Armand Collin en 2016. Vous pouvez sur le site de l'émission, l'écouter pendant 1000 jours et la podcaster pendant un an, et nous adresser vos commentaires en bas de la page de Sciences Publiques. La semaine prochaine, vendredi 18 mars, nous serons en direct depuis le Salon du Livre et nous nous inscrirons dans la semaine thématique des émissions de Culture Science consacrée à l'ADN. Nous reviendrons sur les conséquences éthiques de l'apparition d'une nouvelle méthode de modification de cet ADN baptisée CRISPR-Cas9. Cette technique pourrait à terme servir à modifier les cellules sexuelles d'embryons et aboutir ainsi à une transformation du patrimoine génétique de l'être humain. Faut-il d'ores et déjà réfléchir sur les conséquences d'une telle manipulation de l'ADN? Doit-on envisager une limitation des recherches dans ce domaine? Pour en débattre, nous recevrons Hervé Schneeweis, Jean-Michel Beignet et Jean-Yves Naud. Nous vous donnons donc rendez-vous au Salon du Livre pour suivre cette émission qui sera diffusée en direct et en public. Sciences Publiques, Dany Journeau, Pierrick Monsigny, Marie Dalquier, Michel Albergantier.